Il est tout juste 23h en temps universel. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Pierre Boudiès, bonsoir Pierre.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à toutes et à tous. Le premier ministre israélien sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Benjamin Netanyahou, accusé de crimes de guerre et contre l'humanité, tout comme son ancien ministre de la Défense et le dirigeant de la branche armée du Hamas. Le dirigeant israélien dénonce une décision antisémite. Nouvelle escalade dans la guerre en Ukraine. La Russie utilise pour la première fois un missile hypersonique face aux craintes d'une course à l'armement. Le Mexique appelle à investir dans les forêts. Et moi en Haïti, après les propos d'Emmanuel Macron sur la crise politique dans l'île, le président français juge que les Haïtiens ont eux-mêmes tué Haïti. Sur les réseaux sociaux, citoyens et intellectuels dénoncent un mépris inacceptable. Et puis bientôt, un deuxième grand club de football dans la capitale parisienne, le Paris FC, désormais propriétaire du milliardaire Bernard Arnault, actuellement en Ligue 2. Le petit poussé parisien espère à terme concurrencer le PSG. Aucune décision de la Cour pénale internationale ne m'empêchera de défendre Israël. Les mots du Premier ministre Benjamin Netanyahou, désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre de l'offensive israélienne à Gaza. Il a été émis par la CPI. Sont également concernés son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le dirigeant de la branche militaire du Hamas, Mohamed Daif, présumé mort par Tel Aviv. Espagne et Italie assurent qu'ils seront dans l'obligation d'interpeller les prévenus s'ils se rendent sur leur sol. Washington rejette de son côté cette décision de l'instance. Dans un discours, Benjamin Netanyahou a de son côté dénoncé un acte antisémite. On écoute le Premier ministre israélien.
C'est un jour noir dans l'histoire des nations. Le tribunal international de l'Haye, qui a été créé pour protéger l'humanité, s'est transformé aujourd'hui en ennemi de l'humanité. C'est une faillite morale. Ce tribunal qui nous accuse de crimes fictifs ignore des crimes de guerre bien réels, des crimes de guerre horribles qui sont commis contre nous. C'est un acte antisémite qui a un seul but, nous empêcher de concrétiser notre droit naturel à nous défendre. On accuse Israël de génocide alors que nous essayons de nous défendre contre un ennemi qui essaie de commettre un génocide à notre égard. C'est le monde à l'envers. Le bien devient le mal et le mal se transforme en bien. Israël ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas cette décision fallacieuse.
Un propos recueilli par notre correspondant Michel Paul. Et dans ce contexte, Israël a poursuivi toute la journée ses bombardements sur le Liban. Au moins 40 personnes ont été tuées dans la vallée de la Beka, à l'est du pays, dans des frappes sur 10 endroits différents. Pilonnage de Beyrouth également, la capitale, où 22 victimes ont été recensées. Tel Aviv, qui a également massivement bombardé une réunion de factions pro-iraniennes dans la ville syrienne de Palmyre. Bilan 82 victimes, d'après l'Observatoire syrien. Rien à des droits de l'homme. Le manque de coopération de l'Iran sur son programme nucléaire, à nouveau dénoncé, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique adopte ce soir une résolution en ce sens, adoption portée par les pays occidentaux, alors que Russie, Chine et Burkina Faso ont voté contre par la voix de son représentant à Vienne. Téhéran dénonce un geste politiquement motivé. Pas de victimes, mais un nouveau tournant dans la guerre en Ukraine. Ce jeudi, la Russie utilise pour la première fois un missile balistique hypersonique sur le territoire de Kiev. Vladimir Poutine, confirme cette frappe et prévient qu'il n'hésitera pas à viser les pays occidentaux fournissant des armes à l'Ukraine. Le président russe qui évoque un état de guerre mondiale en Europe de l'Est. Un embrasement qui inquiète Chili, Brésil, Colombie et Mexique qui ont appelé à éviter une course à l'armement. Le Mexique qui avait déjà proposé au G20 de la remplacer par une course à la reforestation, précision Marine Le Beg.
Prendre 1% du budget consacré à l'armement et le dédier à la reforestation. Claudia Sheinbaum, nouvelle présidente du Mexique et ancienne membre du GIEC, a soumis ses calculs aux dirigeants du G20.
Cela revient à verser 24 milliards de dollars chaque année dans un fonds de soutien destiné à plus de 6 millions de paysans qui replanteraient 15 millions d'hectares d'arbres, soit l'équivalent de 4 fois la superficie du Danemark ou bien celle du Belize, du Guatemala et du Salvador réunis.
Le plus grand programme de reforestation de l'histoire, selon les mots de la présidente mexicaine. Une proposition qui ne vient pas de nulle part. Ce programme existe en fait déjà à l'échelle du Mexique et de l'Amérique centrale. Lancé en 2019 par Andrés Manuel López Obrador, président de l'époque et mentor de Claudia Sheinbaum. Son nom, Sembrando Vida, semer la vie.
L'idée, c'est de donner aux familles pauvres des zones rurales une aide financière et une formation technique pour leur apprendre à planter des arbres utiles pour leur bois, mais aussi des arbres fruitiers pour qu'ils soient cultivés dans l'objectif de se nourrir.
Depuis sa mise en place, 1 million d'hectares d'arbres auraient été replantés dans la région. Une lutte combinée contre la faim et la déforestation. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
Et à noter que le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle ce soir la communauté internationale à réagir après ce tir de missile. Emmanuel Macron dénonce une nouvelle fois la politique escalatoire de la Russie. Le président français qui provoque par ailleurs la convocation de son ambassadeur en Haïti après des propos jugés inacceptables. Il s'en est pris violemment à la classe politique de l'île après la destitution récente du premier ministre Gary Coville. Une décision absurde provoquée, je cite, par des cons, selon le local de l'Elysée. Il juge également que les Haïtiens ont eux-mêmes tué Haïti, un mépris envers le pays, selon de nombreux citoyens de l'île. Correspondance à Port-au-Prince de Peterson Luxama.
La déclaration du président français fait déjà la une des agences de presse en ligne en Haïti. Les réactions coulent à flot. Pour Jean-Willy Bellefleur, écrivain et philosophe, les propos d'Emmanuel Macron relèvent de l'arrogance pure et simple.
Comment un président étranger peut se permettre de parler comme ça au sujet des dirigeants de notre pays indépendant? Alors là, je suis vraiment révolté, je suis renversé. Cette arrogance va trop loin.
De son côté, Richard Célestin, jeune journaliste, dit ne pas accorder trop d'importance à cette déclaration. Selon lui, Emmanuel Macron est un président en échec qui tente désespérément de capter l'attention.
Tout ça entraîne en logique de discriminer Haïti, de renforcer le discours discriminant sur Haïti. Mais qu'on a un jeune nègre qui échouait au niveau leadership continental ou bien européen, parce qu'ils ont mis la France de plusieurs côtés, ils ont remis la question et la France, depuis quelques temps, pas saleté. C'est un type, le président de la République qui cherche à exister.
Le message du président français ne laisse pas non plus indifférente Ouzlad Iznard. Elle admet la responsabilité des élites haïtiennes, mais pointe également du droit la communauté internationale, dont la France.
Nos élites politiques ont largement contribué au malheur de cette nation. Cependant, il serait injuste et simpliste d'ignorer les implications externes, notamment le rôle déterminant joué par la communauté internationale dans ces situations de crise.
Si les dirigeants haïtiens portent une part de responsabilité dans les malheurs du pays, plus d'un pense que la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a aussi joué un rôle en pillant les ressources du pays et en affaiblissant ses institutions. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Emmanuel Macron qui se dit ce soir très préoccupé par la disparition de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien interpellé à l'aéroport d'Alger samedi dernier. Selon plusieurs médias français, Paris indique que les services de l'État sont pleinement mobilisés pour clarifier sa situation. Et puis le football français s'offrira-t-il bientôt un derby parisien? C'est en tout cas l'objectif affiché du milliardaire Bernard Arnault qui va officiellement racheter le club du Paris FC. Le fils du propriétaire du groupe LVMH a présenté hier son projet pour le club de Ligue 2 et il est ambitieux. Victor Missistrano.
Autour du Paris Football Club, de rêver plus grand, Antoine Arnault affirme que les investissements seront conséquents. L'homme d'affaires entend créer une autre équipe de haut niveau dans la capitale, comme à Londres ou Madrid.
Il y a absolument la place pour un autre club à Paris qui aura une philosophie propre. Notre proposition sera différente.
Pas de folie des grandeurs, la famille Arnault dit vouloir agir dans le temps long et créer le meilleur centre de formation de France.
Nous voulons construire un club dans lequel, à terme, nous aurons peut-être 5, 6, 7, pourquoi pas 8 joueurs issus du centre de formation.
Un modèle calqué sur celui de Leipzig en Allemagne, propriété de Red Bull qui entre aussi au capital du club. Un modèle qui tranche avec celui du PSG, mais n'allait pas chercher de rivalité.
Le PSG, c'est un club que j'aime depuis que j'ai 12 ans. Vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le PSG. Le jour où, je l'espère, nous serons en Ligue 1, je soutiendrai le PSG, sauf évidemment 2 fois par an.
Même son de cloche chez la légende brésilienne Rai, ancien capitaine du PSG et de la Seleção, désormais ambassadeur du Paris FC.
Et là, j'ai fait partie aussi d'un autre projet très ambitieux qui passe à notre cap. C'est historique, un début d'une belle histoire.
Une belle histoire qui semble déjà s'écrire. Le Paris FC est pour l'heure en tête de la Ligue 2.
Et le Paris Saint-Germain pourrait lui bientôt quitter son stade. Son président Nasser El Khelaïfi accuse une nouvelle fois ce soir la maire de Paris de refuser de lui vendre le Parc des Princes qu'il souhaite agrandir. grandir. Il assure vouloir construire au plus vite un nouveau stade d'au moins 80 000 places. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.